votre compte bourse. À retrouver sur fortuneo.fr. Fortuneo, j'aime ma banque.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h.
Europe 1 nuit. Maëlle Hassani.
Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner en ce lundi soir pour Europe 1 Nuit jusqu'à 22h30. Et je vous rappelle d'ores et déjà qu'à 22h45, vous retrouverez, comme tous les soirs, la libre antenne avec Olivier Delacroix. Et si vous souhaitez échanger avec Olivier, c'est très simple. Il suffit de composer dès maintenant le 01 80 20 39 21. Pour le moment, c'est votre journal. Et à la une, le cyclone Chido a plongé Mayotte dans une situation apocalyptique. L'archipel totalement dévasté. Au moins une vingtaine de morts recensés, mais de l'aveu même du ministre de l'Intérieur, le véritable bilan humain est impossible à évaluer aujourd'hui. Bruno Retailleau s'est rendu dans le département le plus pauvre de France. Aujourd'hui, il a ensuite fait un point de situation à La Réunion où sont organisées les opérations de secours. Nous serons avec l'envoyé spécial d'Europe 1 dès le début de ce journal. François Bayrou suit quant à lui la situation de loin à Pau, où il tenait ce soir à présider le conseil municipal. Comme avant, la nomination du président du Modem à Matignon ne l'empêche pas d'exercer son mandat local et il ne compte pas y renoncer, vous l'entendrez. Dans ce journal également, les derniers mots de Dominique Pellicot devant la cour criminelle du Vaucluse avant le verdict attendu jeudi matin. Plusieurs centaines d'objets ayant appartenu au général de Gaulle vendus aux enchères. Et puis Léon Marchand, sacré nageur de l'année 2024. Emmanuel Macron se rendra à Mayotte dans les prochains jours. En attendant, le président de la République s'engage à décréter un deuil national face à une tragédie qui bouleverse chacun de nous, écrit-il sur X. Cette tragédie, bien sûr, c'est le cyclone Chido qui a dévasté l'archipel samedi. Le bilan humain est impossible à déterminer pour le moment, mais il pourrait y avoir des centaines, voire des milliers de morts. Bonsoir Wilfried de Villers.
Bonsoir Maëlle, bonsoir à tous.
Vous êtes à Saint-Denis de la Réunion où les opérations de secours sont coordonnées. C'est là-bas que le ministre de l'Intérieur s'est adressé à la presse après une visite de plusieurs heures à Mayotte où la situation est apocalyptique.
Oui, et c'est bien ce que décrit Bruno Retailleau ce soir. Lui qui était principalement à Petite Terre, l'une des deux îles de l'archipel de Mayotte, et à Mamoudzou, la capitale mahoraise.
Le conseil est très clair, l'île est totalement dévastée. L'habitat qui est un habitat précaire, les bangas, les bidonvilles, il n'y a plus rien. Et pour ce qui concerne l'habitat moins précaire, en dur, il a beaucoup souffert.
Des scènes de chaos, de ruines, mais aussi des opérations de secours qui se renforcent d'heure en heure, a souligné le ministre des missionnaires de l'Intérieur, qui évoque une montée en puissance du pont aérien. Au total, entre 7 et 10 avions devraient assurer quotidiennement l'acheminement de matériel humanitaire, médical et des vivres dans les prochains jours. Un pont aérien, je le rappelle, entre l'île de la Réunion et Mayotte. Et quand on pose à Bruno Retailleau la question du bilan humain, du nombre de victimes, écoutez ce qu'il répond.
Il faudra des jours et des jours pour avoir un bilan qui sera un bilan solide. Il y a une cellule de recherche, de comptage, etc., qui va se mettre en place et qui va s'appuyer sur les localités, sur les communes notamment, et sur le système traditionnel cadial.
Enfin, sur le plan sanitaire, le grand centre hospitalier de Mayotte fonctionne à nouveau, bien que partiellement, 45% de reprise et donc de prise en charge des blessés, des victimes. Et un hôpital de campagne sera mis sur pied dès jeudi, promet Bruno Retailleau.
Wilfried de Villers à Saint-Denis de la Réunion pour Europe 1. La situation économique à Mayotte, le département le plus pauvre de France, va encore se dégrader selon le MEDEF, en plus des dégâts catastrophiques subis par les entreprises. Nombre d'entre elles sont en proie au pillage et la solidarité s'organise bien sûr en France mais aussi à l'étranger. Ce soir, les États-Unis se disent prêts à aider les Mahorais en offrant une aide humanitaire appropriée. Une réunion interministérielle de crise était organisée aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. Une absence remarquée à cette occasion, celle de François Bayrou. Le Premier ministre tenait à se rendre à Pau, la ville dont il est maire depuis 10 ans, afin de présider le conseil municipal. Jacques Serret, après avoir obtenu ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire Matignon, François Bayrou met un point d'honneur à rester un élu local.
François Bayrou fait le grand écart après avoir participé à distance à la cellule interministérielle de crise. C'est depuis le conseil municipal de Pau qu'il évoque la situation à Mayotte.
Les dégâts sont absolument considérables. Les dégâts humains sont très difficiles à apprécier.
Et le Premier ministre enfile son costume de maire comme si de rien n'était.
Je vous proposerai que nous votions une subvention de 25 000 euros si toutes les villes de France, ça sera déjà le départ de quelque chose pour une aide.
Pour François Bayrou, pas question d'abandonner l'hôtel de ville de Pau.
Comme vous savez, pour les membres du gouvernement, c'est autorisé. Pour les parlementaires, pas. Mais je pense qu'il faut que ce débat soit repris. Les relations entre les responsables du pouvoir et la base ne peuvent pas être séparées comme elles le sont.
Le nouveau Premier ministre prône le cumul des mandats quand Édouard Philippe ou encore Jean Castex avaient lâché leur fauteuil au Havre et à Prades.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. François Bayrou, maire de Pau. François Bayrou également en charge de former un gouvernement. Et pour cela, un cycle de consultations a débuté ce matin. Le Premier ministre a convié les forces politiques par ordre d'importance numérique. Le RN, représenté par Marine Le Pen et Jordan Bardella, a donc ouvert le bal. Alexandre Chauveau.
Oui, l'objectif, c'est de rassurer sur la méthode et d'essayer ensuite de trouver une voie de passage pour former un gouvernement qui dure. Premier reçu ce matin donc, Marine Le Pen et Jordan Bardella, à l'origine de la chute de Michel Barnier et qui représente de fait l'une des principales menaces pour François Bayrou. Rendez-vous à l'issue duquel les dirigeants du RN sont ressortis avec le sentiment d'avoir été écoutés, même si Marine Le Pen reste prudente.
Je suis trop expérimentée, j'allais presque vous dire trop vieille en politique pour être rassurée par une conversation. Moi, je suis rassuré par des actes. Et donc, nous verrons bien comment cela se passera. Mais le Premier ministre nous a exprimé le souhait que l'ensemble des députés soient traités de manière parfaitement égale. C'est évidemment un sujet de satisfaction pour nous.
Et Marine Le Pen d'insister sur le contraste avec le manque de dialogue supposé de Michel Barnier. L'autre menace pour François Bayrou, ce sont les socialistes qui ont réitéré leurs conditions pour ne pas censurer. Pas de 49-3 et pas de nouvelle loi immigration.
Alexandre Chauveau, cette loi immigration, justement, c'est un sujet particulièrement inflammable. Et l'attitude à suivre concernant ce texte divise la droite.
Oui, parce que Bruno Retailleau serait prêt à faire une croix dessus s'il obtenait la garantie que les principales mesures étaient adoptées autrement que par un nouveau texte. Le problème, c'est que Laurent Wauquiez a précisément demandé une loi à François Bayrou cet après-midi à Matignon. Un entretien qui n'a pas été conclusif, selon un proche du patron de la droite républicaine, et qui pourrait augurer un nouveau clivage à droite entre d'un côté les partisans d'une entrée au gouvernement, quitte à devoir faire des compromis, et de l'autre, des élus qui jugeront ces concessions trop importantes pour gouverner avec François Bayrou.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et demain, les écologistes et les centristes du groupe Lyot seront reçus à leur tour à Matignon. Le député Lyot, Charles de Courson, sera d'ailleurs invité de la grande interview Europe 1 CNews demain matin à 8h10. Pour rappel, la France insoumise a décliné l'invitation du Premier ministre. On en parle à 22h15 avec la députée LFI Alma Dufour, invitée politique d'Europe 1 Nuit. La loi spéciale permettant d'assurer la continuité de l'État malgré le rejet du budget 2025, adoptée à l'unanimité par les députés aujourd'hui. Mais les amendements visant à indexer le barème de l'impôt sur l'inflation sont déclarés irrecevables par la présidente de l'Assemblée nationale. Conséquence, 380 000 nouveaux foyers vont se retrouver imposables à partir du 1er janvier. Mais cette anomalie pourrait être réparée dans le cadre du prochain projet de loi de finances attendu début 2025.
Europe 1 Nuit, Maël Hassani.
Le verdict est attendu jeudi matin au plus tôt au procès des violeurs de Gisèle Pélicaud. La cour criminelle du Vaucluse s'est retirée à la mi-journée pour délibérer après plus de 3 mois d'audience. Avant cela, Stéphane Burgat, les 51 prévenus ont pu s'exprimer une dernière fois et le principal accusé, Dominique Pélicaud, ne s'en est pas privé.
Pas d'excuses, pas de regrets pour la majorité des accusés, juste une déclaration laconique. Je n'ai rien à ajouter et pour cause, certains plaident l'abolition du discernement et donc l'acquittement. Dominique Pélicaud, pour qui le ministère public réclame la peine maximale, à savoir 20 ans, s'est exprimé en premier d'une voix usée pour demander une dernière fois pardon à son ex-épouse Gisèle, qui restait impassible. Des excuses indispensables selon son avocate, Maître Zavaro.
C'est ce qui était nécessaire de faire une dernière fois. On ne sait pas ce que le verdict te donnera, mais de toute façon, il est en détention, il y restera. Je crois que vous pouvez lui accorder le bénéfice de la sincérité.
14 autres accusés formuleront des excuses, parfois maladroites, à une Gisèle Pélicaud qui ne leur accordera pas un seul regard, à l'exception de Cédric G qui retient son attention. Quand une voix ferme, il regrette cette forme de violence ultime, ce viol. Pour leur dernière déclaration, d'autres accusés s'engagent pour l'un à ne pas faire appel du verdict ou encore à ne plus avoir de relations sexuelles. Un autre encore annonce son mariage le mois prochain et espère que la sanction ne sera pas trop sévère. Un dernier dénonce un procès biaisé, clame son innocence. À l'approche du verdict, la tension va crescendo. Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1.
Les réquisitions sont connues au procès de l'assassinat de Samuel Paty. Des peines allant de 1 an à 16 ans de prison sont réclamées par le parquet national antiterroriste à l'encontre des 8 accusés. La peine la plus élevée est demandée contre un ami du terroriste Abdullah Kanzorov, accusé d'avoir aidé l'assaillant à se procurer des armes. Il reconnaît avoir poignardé à mort une adolescente de son âge après avoir tenté de lui voler son téléphone. Un garçon de 15 ans est mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Les faits se sont déroulés vendredi soir près de Limoges. Le mis en cause avait tendu un piège à la victime en fixant un rendez-vous sur les réseaux sociaux, prétextant vouloir lui remettre un cadeau. Les 5 personnes impliquées dans le passage à tabac de 2 policiers hors service à Nice la semaine dernière seront jugées en comparution immédiate demain. Les suspects présentés à un juge ce week-end n'ont pas été placés en détention provisoire, contrairement aux demandes du parquet. Les 2 victimes de l'agression se sont vues prescrire 4 jours d'ITT. Vous écoutez Europe 1, il est 22h10. Des objets ayant appartenu au plus illustre des Français, vendus aux enchères à Paris. Vente organisée par la maison Arthurial. Et parmi les biens proposés, des courriers échangés avec Winston Churchill ou Joséphine Baker. Vous l'avez compris, on parle évidemment du général de Gaulle. Un train électrique offert au général par Nikita Khrushchev, qui a trouvé preneur pour 12 000 euros. Ou encore une montre en or vendue 410 000 euros. Alexis de la Fléchère a pu assister à cette vente exceptionnelle pour Europe 1.
À 5 000 de juge, madame, dernière chance pour ce soldat, à 5 000. Adjugé 5 000 ici.
Un soldat de plomb avec lequel le général de Gaulle a joué enfant, estimé environ 400 euros, part finalement à 5 000 euros en salle des ventes.
Sous réserve de préemption.
Sous réserve de préemption, cela veut dire que l'État pourrait s'approprier l'objet de valeur aux dépens des enchérisseurs. Une vente rare à laquelle Sandrine a voulu assister.
Je ne comptais rien acheter. Enfin, j'avais repéré des choses, mais tout s'est envolé, évidemment, très cher. Donc moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter des choses. Mais d'avoir participé à ce moment unique, c'est comme une grande leçon d'histoire, quoi.
Les correspondances du général de Gaulle, très prisées aussi. Une lettre écrite à son père, estimée à 2 000 euros, finira à...
Adjugé 7 000.
7 000 euros, mais rien de surprenant, explique Théophile, qui a travaillé sur cette vente aux enchères.
Le symbole du personnage que tout le monde a en tête joue énormément. Et la provenance de la vente est impeccable. Donc on sait que tout provient de la famille. Et c'est un peu une occasion unique pour les acheteurs.
Et le livret scolaire du général de Gaulle, daté de 1902, s'est lui vendu prix marteau 40 000 euros.
Alexis de la Fléchère. L'arrivée en gare à Berlin a eu lieu un peu avant 18h. La première liaison ferroviaire directe entre Paris et Berlin a été organisée aujourd'hui. Une nouvelle ligne vient d'ouvrir. Le trajet dure 8h et s'effectue à bord d'ICE et non de TGV. Une liaison par jour est prévue dans chaque sens. De quoi finir l'année en beauté. Léon Marchand, quadruple champion olympique l'été dernier à Paris, vient d'être sacré nageur de l'année 2024. C'est bien mérité au vu des performances exceptionnelles du Toulousain, Cyril de la Morinerie.
C'est une consécration, effectivement, pour Léon Marchand, qui est le seul nageur français à être devenu quadruple champion olympique lors d'une seule et même édition, et le premier au monde à réaliser une telle performance depuis le légendaire américain Michael Phelps. Léon Marchand mérite donc cette distinction de meilleur nageur de l'année 2024, confirme à Europe 1 le directeur technique national de la natation française, Julien Essouli.
Ces reconnaissances-là sont toujours particulières parce que y a quand même plein de champions en France, plein de champions à l'étranger. Quand on a la chance d'en avoir un qui performe et qui est reconnu par l'ensemble de l'environnement, ça reste une très grande satisfaction. Et cette reconnaissance, je pense qu'elle est largement méritée et il sera le premier content.
Cet été, le Toulousain de 22 ans est devenu une icône du sport français. Malgré cette nouvelle notoriété, Léon Marchand garde la tête sur les épaules. La preuve avec cet entretien accordé à Europe 1 il y a quelques mois.
Alors là, peut-être pas Mbappé ni Zidane, je pense pas me mettre à cette échelle, mais j'ai kiffé parce que en fait, je vois la joie des Français dans les yeux et je vois que j'ai apporté un peu de bonheur au pays, donc c'est trop bien.
Le héros des Jeux Olympiques fait actuellement une pause. Léon Marchand n'a pas participé au championnat du monde de Budapest. Le meilleur nageur de la planète a besoin de se reposer, c'est bien normal, avec ses proches avant de reprendre la compétition.
Et oui, il mérite effectivement de se reposer. Merci beaucoup, Cyril de la Morinerie. Un point sur les marchés financiers désormais.
Retrouvez Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque.
Et la Bourse de Paris qui termine en baisse. Aujourd'hui, moins 0,71% à 7357 points. Les investisseurs qui se montrent frileux à cause de la situation politique et économique en France et dans l'attente des prochaines décisions de la Fed. Et du côté des États-Unis, c'est une clôture en ordre dispersé à Wall Street. Moins 0,25% pour le Dow Jones, plus 1,24% pour le Nasdaq.
C'était Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Meilleure banque pour sa tarification bourse sur Euronext. Fortunéo, J'aime ma banque. Source MoneyVox Mai 2024, voir détails des conditions tarifaires sur fortuneo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital.
La météo désormais, avec vous Marlène Duret. Pas de pluie, mais beaucoup de nuages demain.
On commence par la moitié nord, avec toujours autant de grisailles pour débuter la journée, et on va même englober le Lyonnais et la moyenne vallée du Rhône. Alors, ces grisailles peuvent être doublées de brouillard, ils seront plus nombreux que ce matin, et on les trouvera essentiellement sur un vaste quart nord-est. Beaucoup de nuages en Aquitaine également, qui vont gagner progressivement au fil des heures, la Bourgogne, le sud de l'Île-de-France, la Normandie, tout le Val-de-Loire. En fait, on sera à l'avant d'un système perturbé qui va nous concerner mercredi et jeudi. Voilà, beaucoup de nuages également vers le Golfe du Lion en raison d'entrée maritime, et puis pour trouver un peu de soleil, parce qu'on en trouvera quand même un petit peu déjà sur le relief des Vosges dès le matin, beaucoup de soleil en Corse aussi, mais il faudra aussi se rapprocher des Alpes, ce sera du soleil voilé vers la vallée du Rhône quand les grisailles se seront dissipées, même chose en allant vers les Pyrénées et sur le sud de l'Auvergne. Quant aux températures, eh bien elles seront stationnaires, voire un peu au-dessus dans le sud-ouest, comprises entre 4 degrés à Nuits-Saint-Georges en Côte d'Or et 17 à Ajaccio, avec 10 à Paris, à Clermont-Ferrand, à Lille, 11 à Grenoble, 13 à Nantes ou encore 16 à Biarritz et Toulon.
Merci beaucoup Marlène Duret et merci à vous de nous écouter sur Europe 1 ce lundi soir. Dans un instant, je reçois la députée La France Insoumise de Seine-Maritime, Alma Dufour. Elle sera l'invitée politique d'Europe 1 Nuit. À tout de suite.
Bonjour, c'est Pascal Pro. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h, 13h, Pascal Pro et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Bonjour Pascal, tout ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui sont laissés sur le bord de la route. Ils nous font des promesses, des monts et des merveilles et on voit bien que ça se produit pas.
C'est toujours les mêmes qui payent et c'est toujours les mêmes qui sont taxés.
On ne peut pas tenir comme ça, c'est impossible.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Pro et vous.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous.
Dis donc, tout le monde parle de Bitcoin, de crypto, moi j'y comprends rien.
Fais comme moi, passe par CoinHouse, c'est sérieux. Des experts t'accompagnent et en plus c'est français.
Ah, c'est rassurant ça.
Bien sûr, avec CoinHouse, tout est clair, accessible. C'est l'idéal pour acheter des cryptos.
Redis-moi comment ça s'appelle ?
CoinHouse, comme dans Bitcoin.
CoinHouse SAS, 14 avenue de l'Opéra, Paris 1er. La crypto-monnaie présente un risque de perte en capital lié à la volatilité des cours et à la cybersécurité. Plus d'infos sur CoinHouse.com.
Europe 1 Nuit. Maëlle Hassani.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 à 22h17. J'accueille la députée LFI de Seine-Maritime, Alma Dufour. Bonsoir, madame la députée.
Bonsoir.
Et pour commencer, on va évidemment parler de cette situation apocalyptique à Mayotte. Les images sont absolument terribles. Les autorités parlent peut-être de centaines, voire de milliers de morts. Qu'avez-vous à dire à nos compatriotes mahorais ce soir ?
Que je leur exprime toute ma solidarité, que je sais à quel point ils doivent être déjà catastrophés par ce qui se passe, à quel point ils doivent être en colère parce que malheureusement, et comme trop souvent pour nos territoires d'outre-mer, on n'a pas fait les choses sérieusement, on n'a pas assez anticipé.
Il y a eu des manquements de la part de l'État ?
Bien sûr, parce
qu'en fait,
vraiment, on a des députés d'outre-mer qui nous ont rapporté quand même que on aurait pu prévenir plus tôt, on aurait pu prendre plus sérieusement cette alerte et la décision du nouveau Premier ministre, Monsieur Bayrou, de ne pas se rendre, enfin, d'assister à la réunion de crise en visio pour pouvoir être au conseil municipal de Pau est une insulte supplémentaire. Il faut comprendre que cette situation, évidemment, c'est une catastrophe naturelle. Évidemment, personne ne l'a cherchée, mais le problème, c'est que les territoires d'outre-mer crient leur délaissement par rapport à l'Hexagone depuis des années maintenant. On le voit chaque discussion budgétaire des députés d'outre-mer qui sont désemparés, désespérés par cette France à deux vitesses qu'on leur impose. Et vraiment, voilà. Donc, je me joins évidemment à leur peine. J'espère qu'on va faire le maximum pour qu'il y ait le moins de victimes possible et surtout que l'État sera au rendez-vous pour reconstruire et réparer les dégâts très rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Je rappelle que Mayotte a une crise, par exemple, de l'eau potable depuis plus d'un an, dont très peu de personnes ne parlent, et c'est scandaleux.
Il y a une sorte, selon vous, de deux poids, deux mesures entre les politiques publiques pour l'Hexagone et Outre-mer, c'est ça ?
Totalement, et je pense que beaucoup de citoyens en Hexagone n'en ont pas conscience. Ça se traduit partout, des budgets qui manquent. Le budget 2025, qu'on a heureusement supprimé, coupé encore dans les budgets pour les Outre-mer. On a vraiment une France, comme je le dis, à deux vitesses. Et pourtant, ce sont des citoyens français. Il est temps qu'on s'en rende compte, ou sinon, on ne pourra pas dire après qu'on n'avait pas vu venir la colère des gens, comme je parlerai aussi évidemment des révoltes de la vie chère en Martinique notamment, où en fait on a des prix qui peuvent être jusqu'à 200 fois supérieurs à ceux de l'Hexagone, et ça ne fait pas la une des journaux pour autant. Donc c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on considère que les habitants des territoires d'outre-mer sont bien des Françaises et des Français comme nous tous, parce que si c'était vraiment... S'ils avaient vraiment cette importance-là aux yeux du gouvernement et aux yeux aussi d'une certaine sphère médiatique, on parlerait beaucoup plus souvent de ce qui s'y passe, et on en parle trop peu, ou quand il y a vraiment des catastrophes qu'on ne peut pas ignorer, c'est dramatique.
Alors l'une des raisons qui vont expliquer le grand nombre malheureusement de victimes à Mayotte, c'est évidemment la présence de très nombreux bidonvilles. Plusieurs centaines de milliers de personnes habitent dans ces bidonvilles. L'année dernière, l'État avait lancé Wambushu, qui était en fait un grand plan de lutte contre l'habitat indigne. Finalement, lutter contre l'habitat indigne, c'est aussi prémunir.
Un grand plan d'évacuation et d'expulsion.
Vous étiez contre ce plan à la France Insoumise. On voit aujourd'hui que lutter contre l'habitat indigne aurait peut-être fait moins de dégâts dans une situation comme celle qui vient de se produire ce week-end.
Oui, en fait, c'était pour expulser des gens, pour les laisser sans solution, et pas du tout pour les reloger et leur offrir des perspectives. C'est bien ça le problème. Oui, il y a un énorme problème, puisque Mayotte est un territoire français. Du coup, il y a beaucoup de Comorais qui sont dans une grande détresse économique, qui rejoignent le territoire de Mayotte. Et en fait, on les laisse là-bas, parqués là-bas. On leur offre aucune perspective. Donc, on a détruit les bidonvilles. On les a expulsés de force, mais pas forcément pour leur proposer des solutions de relogement adéquates ou des droits nouveaux. Donc, en fait, on était contre parce que c'était d'une brutalité sans nom, parce que Mayotte, encore une fois, est cloisonnée par rapport à la France, et on veut que ça reste un territoire, entre guillemets, d'exception. Et du coup, les habitants de Mayotte, en fait, se retrouvent à gérer une situation qu'ils ne peuvent pas gérer seuls. Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que du coup, on les laisse face à une situation migratoire qui est réelle, qui est sérieuse, qu'il faut prendre en charge, mais on les laisse comme s'ils n'étaient pas la France, en fait, et comme s'ils étaient à eux, à ce territoire qui est déjà très très pauvre, qui est un des plus pauvres des territoires d'outre-mer, de gérer cet afflux. Et c'est pas possible, c'est pas comme ça que la France doit se comporter.
Vous avez vous-même...
Ou alors, dans ce cas-là, la France renonce à avoir des territoires d'outre-mer qui en fait représente aussi une chance inouïe pour notre pays, qui représente, c'est que la France est une des premières puissances maritimes mondiales en termes de frontières, etc. On ne peut pas tout avoir, c'est-à-dire avoir ce rayonnement géographique et cette présence sur différents continents, et en même temps, quand ça nous arrange, dire « Ah ben non, vous gérez ça tout seul », et puis nous, en fait, ce n'est pas vraiment pareil, quoi.
Vous avez évoqué vous-même, Alma Dufour, la présence, ou plutôt l'absence de François Bayrou à une réunion interministérielle de crise tout à l'heure. Le maire de Pau a préféré présider le conseil municipal de sa ville.
Il n'était
pas présent. Voilà. Quel est le signal envoyé selon vous avec cette absence?
C'est un mépris supplémentaire. Excusez-moi, là vous parlez quand même de potentielles centaines de morts, voire plus. Et je veux dire, dans n'importe quel... Enfin, encore une fois, imaginez que ça se passe, je ne sais pas, justement à Pau ou à Strasbourg. Est-ce que vous imaginez une seule seconde le Premier ministre dire non, je ne viens pas juger un conseil municipal? Est-ce qu'on se rend compte de la violence de ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie des habitants de Mayotte compte moins que la vie des habitants de Strasbourg ou de Pau. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pas possible d'envoyer ce signal-là. Enfin, ça commence très très mal. Et là, je le dis même pas parce qu'on est contre François Bayrou et sa politique potentielle qu'on imagine. Mais je le dis vraiment, j'aurais dit même ça d'un Premier ministre de gauche. C'est intolérable.
D'ailleurs, au-delà de la situation, évidemment, de ce parallèle avec ce qui se passe à Mayotte, comment vous réagissez en voyant un Premier ministre qui endosse ce rôle de maire? C'est une situation normale, ou à la France Insoumise, vous êtes plutôt contre le cumul des mandats?
Oui. On est contre le cumul des mandats, comme beaucoup de choses. Enfin, en fait, on est pour une refondation très profonde de notre démocratie représentative, qui est désormais à bout de souffle. La Ve République est en crise. Les gens ne comprennent plus. En fait, ils ont l'impression de s'exprimer à la fois dans les urnes que ça marche pas, en manifestation que ça marche pas. Et après, on va s'étonner. Enfin, le régime de la Ve République est en crise profonde. Les gens veulent plus de démocratie. Et plus de démocratie, ça veut dire aussi qu'on ventile un petit peu et qu'on change les gens aussi. Et qu'on laisse aussi peut-être plus d'espoir à des gens de devenir eux-mêmes des élus. Et typiquement, le cumul des mandats, ça veut dire verrouiller l'accès en fait à la représentation politique, à des citoyens, puisqu'en fait voilà, vous êtes à la fois député, puis vous êtes maire, puis vous êtes conseiller départemental, conseiller régional. C'est des choses en fait d'un vieux monde, d'une élite politique qui, qu'elle soit de gauche et de droite, a bien profité du système, et je pense que ça fait partie des choses qui énervent beaucoup les gens. Et en tout cas, je le vois dans ma circonscription, les gens comprennent pas en fait qu'on puisse cumuler. Ils savent très bien que c'est pas possible humainement d'être à la fois un bon maire et un bon député, et un bon conseiller départemental et un bon conseiller régional. Ça c'est des mensonges. Alors oui, on a de l'expérience, mais en fait, à un moment donné, on a des semaines comme tout le monde de 7 jours et en fait, on peut pas tout faire. Et donc oui, on est plutôt et ça démontre voilà que Monsieur Bayrou est vraiment le dernier dinosaure de l'ancien monde que Macron a pu trouver pour occuper ce poste. Mais c'est complètement à 360 degrés ce que les gens ne veulent plus.
Il y a un sujet de connexion au territoire aussi. Savoir que, par exemple, un maire, effectivement, d'une petite commune peut également porter la voix des administrés à l'Assemblée quand le cumul est possible.
On a le Sénat pour ça, monsieur. On a le Sénat pour ça. C'est-à-dire que le Sénat, c'est typiquement son rôle. C'est une chambre, d'ailleurs, qui n'est pas élue par les citoyens directement. Les citoyens ont peu de connexion avec leurs sénateurs, malheureusement. Et d'ailleurs, on peut contester ce mode d'élection. Mais les sénateurs sont élus par des maires, justement, pour représenter les intérêts des communes et les remontées de terrain. Et puis après, je peux vous dire que moi, en tant que députée, j'ai pas de mandat dans un conseil municipal, mais sur le terrain, j'y suis. Là, j'y étais encore tout à l'heure. En fait, on fait des porte-à-porte, on va voir les gens, on va voir les travailleurs. C'est notre rôle. Il y en a peut-être qui ne le font pas assez, et c'est bien dommage pour eux, mais en réalité, on peut être proche du terrain tout en cumulant pas les fonctions et les rémunérations.
Alma Dufour, je rappelle que vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Maritime, vous êtes l'invitée politique d'Europe 1 Nuit. Alors François Bayrou, on en reparle, qui est donc maire de Pau et qui est aussi Premier ministre, bien sûr, depuis vendredi. Il a commencé un cycle de concertation avec les différentes forces politiques, à commencer par le Rassemblement National. Il a aussi reçu les Républicains, le PS et Gabriel Attal pour Renaissance aujourd'hui. La France Insoumise a décliné l'invitation. Pour quelle raison ?
En fait, je pense qu'on se rend compte que les Françaises et les Français ne comprennent plus grand-chose à la situation politique. Ils ne comprennent pas surtout qu'on les a appelés avec grande solennité à se déplacer aux urnes en juillet pour voter. Ils ont voté aux législatives, que c'est d'ailleurs l'élection qui a recueilli le plus de participation depuis les années 80, donc on est en train et qu'en fait ça n'a rien donné, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes et on recommence, et que le président s'obstine à ne pas vouloir reconnaître le résultat de ces élections. C'est-à-dire que là, en plus, Monsieur Bayrou, il est donc représentant du MoDem. Le MoDem fait le tour de force d'être encore plus minoritaire que les Républicains de Monsieur Barnier à l'Assemblée nationale. Donc nous, ce qu'on veut dire, c'est que on veut que les gens comprennent en fait qui n'oublie pas, malgré le fait qu'on saute de polémique en polémique, un fait très très grave, en fait, c'est que pour l'instant, le résultat des urnes n'est toujours pas reconnu. On ne pense pas qu'il y a grand-chose à tirer de M. Bayrou. D'ailleurs, c'était probablement juste pour faire un signe d'ouverture, mais si M. Macron avait voulu se nommer lui-même Premier ministre, enfin, s'il avait pu, il l'aurait fait. Et on sait très bien qu'il va être là pour appliquer à peu près la même politique que Michel Barnier, en plus macroniste. Donc, en fait, nous, on veut envoyer un message de clarté. On ne négocie pas avec cet ancien monde qui a été rejeté en majorité par les Françaises et les Français, même y compris une partie de ceux qui ont voté Rassemblement National, d'ailleurs, qui en ont voté aussi pour des raisons de pouvoir d'achat, de justice sociale, de crise, en fait, dans laquelle on se trouve. Et donc, ça suffit de servir de marchepied à ce président qui n'a plus la majorité dans le pays.
Et par exemple, d'autres partenaires de gauche, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les écologistes acceptent d'aller à Matignon. On parle évidemment d'un accord de non-censure. Le PS, à certaines conditions, notamment le renoncement au 49-3, s'engage à ne pas censurer si jamais François Bayrou répondrait à ces revendications-là. Finalement, vos partenaires, ils sont dans l'action et ils sont pas dans la politique de la chaise vide. Est-ce qu'ils n'ont pas raison d'être aussi acteurs de cette séquence ?
Mais acteurs de quoi ? Puisque qu'est-ce qu'ils ont obtenu concrètement ? C'est juste une question. Et si vous pouvez me la donner, moi je serais contente d'avoir la réponse.
Alors pour l'instant, François Bayrou ne semble pas, et d'ailleurs Olivier Faure le disait à la sortie de Matignon, il ne semble pas avoir beaucoup d'avancées. Mais disons qu'il y a, encore une fois, il y a des propositions, il y a un pacte, il y a un bras de fer qui est engagé malgré tout avec le Premier ministre.
Mais en fait, le bras de fer, il se fait pas dans ces réunions avec M. Bayrou, il se fera à l'Assemblée nationale. Le bras de fer, il se fera par la menace d'une censure, si jamais les équilibres ne sont pas respectés. C'est-à-dire que ça fait 10 jours que certains de nos partenaires vont négocier. Ils n'ont déjà même pas obtenu le Premier ministre de gauche qu'ils espéraient obtenir, mais parce que Macron n'a jamais eu, et depuis juillet, l'intention de nommer un Premier ministre de gauche, que ce soit clair. Même M. Cazeneuve, en juillet, le savait qu'il ne serait pas nommé. C'est sorti dans le Parisien, dans le Canard Enchaîné, pardon, c'est sorti dans plein de journaux, en fait, que ça a été une vaste escroquerie. Et donc, ils n'ont pas obtenu le Premier ministre de gauche, ils continuent à négocier, mais moi, j'aimerais bien savoir sur quel point on négocie exactement. C'est-à-dire que les Français comprendraient, je pense, si nos partenaires allaient en disant, ben voilà, on veut l'indexation des salaires sur l'inflation, l'abrogation de la réforme des retraites et le blocage des factures d'électricité. Oui. Par exemple, trois points très, 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 très concrets sur la crise sociale qui est en cours. Mais c'est même pas de ça qu'on parle. De quoi on parle? Un accord de non-censure alors qu'on sait même pas ce qu'ils vont proposer. C'est absolument hallucinant. Et oui. En fait, on s'éloigne de plus en plus du quotidien des gens et notamment aussi, pardon de le rappeler, mais du fait qu'il y a plus de 100 000 salariés dont l'emploi est menacé à très court terme. Qui en parle? Pour moi, c'est ça le chaos, c'est ça le sujet dont on devrait être en train de parler aujourd'hui. Moi, je ne me mets pas à table avec un gouvernement qui n'a même pas un mot pour tous les plans sociaux qui s'enchaînent là en ce moment. On a plus de deux par semaine, c'est absolument hallucinant.
Merci beaucoup Alma Dufour, merci d'avoir été l'invitée politique d'Europe 1 demi ce soir. Je rappelle que vous êtes députée LFI de Seine-Maritime.
Merci.
Et à 22h30 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Omblin Roche pour les années top 50.
Merci Maël Hassani, on vous retrouve à 23h pour le rappel de l'information. Sur Europe 1, ce sont maintenant les années top 50.
Europe 1, les années top 50.
Omblin Roche.
Bonsoir les petits clous, très bonne fin de lundi, presque plus rien à tenir avant les vacances. Si vous avez la chance d'en profiter, les fêtes qui approchent, plus que 8 dodos avant le réveillon de Noël. Sur Europe 1 tous les soirs, toute cette année, après le journal de 22h, on fait un peu la fête ici au son réjouissant et exaltant de la musique des années 80 et 90. Le grand retour du top 50 à l'occasion des 70 ans d'Europe 1. Un anniversaire qui approche aussi, ce sera exactement le 1er janvier. Je vous propose de passer le prochain quart d'heure en très bonne compagnie, celle de Patrick Bruel.
Les années top 50, Omblin Roche sur Europe 1.
Oui, les années top 50 spéciales Patrick Bruel sur Europe 1, puisque le chanteur célèbre, lui, les 35 ans de son album À leur regard. Cet album de 1989 qui va provoquer une hystérie que seuls les Beatles sous Claude François ont connue. L'album qui donnera naissance à la fameuse Bruelmania. On va écouter une chanson d'À leur regard ce soir, bien sûr, mais je vous propose de revivre également deux autres moments clés de sa carrière de chanteur, bien sûr. Et pour cela, on retourne d'abord au commencement. Patrick Bruel, une voix de jeune premier en 1984 qui n'a pas encore goûté à la célébrité. La mélodie vient de son ami Gérard Preskervic. Ils écrivent le texte ensemble. Patrick Bruel, 25 ans, avec Marre de cette nana-là sur Europe 1.
J'arrive un peu en retard. Mais ma maman ne voulait pas que je sorte ce soir. Elle me fait toujours quand je viens vous voir. Mon cher amour, toute une histoire. Des aventures, je peux dire que j'en ai eu des tonnes. Mais celle-ci dure depuis 3 mois et ça m'étonne. Car l'amour m'est venu par hasard. Quand je suis monté dans sa Jaguar.
Méfie-toi de cette nana.
Insister pour que je me fasse percer l'oreille pour qu'elle puisse m'offrir un diat. Maintenant je me fais traiter de pédé pour faire plaisir à ma poupée. Pour les vacances elle veut qu'on aille à Saint-Trope. J'ai des amis qui paraît-il sont très pop. Non seulement j'ai plus un copain, mais en plus faut que je me fasse les siens. J'en ai marre de cette nana là. De cette nana, j'étais bien mieux avant, câliné par maman tout le temps, tout le temps.
Il en a marre de cette nana là, marre de cette nana. T'étais bien mieux avant, câliné par maman tout le temps, tout le temps.
j'avais volé. Le diable, mon oreille percée. Je me suis fait prendre en traversant la frontière. Procès, jugement, 3 mois ferme. Je suis sorti hier. Elle m'attendait dans sa Jaguar. L'amour m'est revenu par hasard.
La chanson se classe 39e du top single en 1984. Patrick Bruel avec Marre de cette nana-là sur Europe 1. Il fera mieux quelques mois plus tard avec la chanson Comment ça va pour vous? Toujours sur une musique de Gérard Prescurvic et qui va rester classée 19 semaines dans le top 50.
Europe 1, les années top 50.
Omblin Roche.
Et Patrick Bruel ce soir, à différents moments de sa carrière. On le retrouve maintenant en 1989, la petite trentaine, artiste aguerri, ténébreux, du charme à revendre. Les adolescentes s'évanouissent, littéralement, elles s'évanouissent sur son passage après avoir crié Patrick. 89, c'est l'année de la sortie de son album À leur regard, la clé de voûte de son parcours de chanteur, album qui déborde de tubes vendus à plus de 3 millions d'exemplaires. Je vous ai choisi le deuxième single qui succède à Casser la voix, chanson d'amour, chanson de rupture, chanson bouleversante, ça c'est sûr. Patrick Bruel sur Europe 1 avec Je te le dis quand même.
On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas, que t'allais peut-être partir et peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Alors on va se quitter comme ça, des cons devant le café d'en bas, comme dans une série B. On est tous les deux mauvais, on s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Je voulais quand même te dire merci pour tout le mal qu'on sait. Certains rigolent déjà. Je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y en a qui supportent pas. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Thank you.
pas être touché en plein cœur. Hein. Patrick, comme ça, on aime et il alimente forcément la Bruelle Mania en 1990. Je te le dis quand même, 12e du top 50 en avril 90.
Europe 1, les années top 50. Omblin Roche.
Patrick Bruel ce soir sur Europe 1, du début des années 80 à la fin des années 90, héros des années top 50 ce soir. On s'approche maintenant de la fin du 20e siècle, quand une fois le soufflet de la Bruel Mania est retombé, il doit se réinventer. En octobre 1999, il sort son quatrième album, hein, Patrick Bruel, juste avant, qui contient sept chansons écrites par Félix Gray. Elle évoque la douceur de vivre en Tunisie. Pour Patrick Bruel, la chanter est l'occasion de mettre en avant ses origines algériennes. Sur Europe 1, pendant 4 minutes, et un petit peu plus, on s'installe au Café des Délices.
Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au Café des Délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au Café des Délices. Yalil, yalil, habibi, yalil, 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 habibi, yalil, 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 habibi, yalil, 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 yalil. Tes souvenirs se voilent, tu la revois, la fille, le baiser qui fait mal à Port El Kantaoui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours, habibi, habibi. Tes souvenirs se voilent, tu les aimais, ces fruits, les noyaux d'abricots, pour toi c'était des billes. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes aux plages d'Hammamet. Yalil, yalil, habibi, yalil, 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 habibi. À l'avant du bateau et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau. Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Yalil, yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, yalil, ces parfums d'autrefois. Yalil, yalil, si tu t'en vas. Yeah.
vraiment ce café des délices à Sidi Bou Saïd, au nord-est de la Tunisie. La chanson se classe 13e des hit parades français.
Europe 1, les années top 50.
Aubin Roche.
Voilà pour ce moment privilégié, passé aux côtés de Patrick Bruel dans les années top 50. Il nous donne rendez-vous vendredi avec la réédition de son disque À leur regard. Et nous, on se dit à demain avec toujours plus de tubes des années 80 et 90 et des tubes de Noël qui plus est. Excellente soirée, vous retrouvez Olivier Delacroix et la Libre Antenne d'Europe 1. Bonsoir Olivier.
Bonsoir ma chère Ombline, merci pour votre voyage au cœur des années top 50 et on vous donne rendez-vous dès demain soir. Même heure, même endroit, 22h30, ici sur Europe 1. Il est 22h45.
Europe 1, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez passé des moments avec les vôtres, ou vous avez passé des moments de plaisir, chacune, c'est chacun, et j'espère que vous êtes heureux et heureuse de retrouver votre libre antenne, même si vous l'avez eu durant tout le week-end avec Valérie Darmon et toute son équipe. Nous sommes, nous en tout cas, ravis de vous accueillir et nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 1h du matin. Pour nous joindre, vous composez le 01 80 20 39 21. Vous nous appelez, vous nous écrivez au 7 39 21 suivi du mot nuit, écran lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous nous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr. Nous accueillons 16 nouveaux membres sur le groupe numérique de la page Facebook de la Libre Antenne. Nous sommes désormais 21 388. Vous pouvez, sur cette page Facebook, vous le savez, adresser vos messages à Florian et à Julia qui vous répondront dans les plus brefs délais. Vous nous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr et puis enfin, vos courriers postaux ici à Europe 1, 2 rue des Cévennes, 75 015, Paris. Voilà, j'espère que vous êtes désormais bien installés chez vous, que vous êtes désormais en forme et heureux, en communion avec votre Libre Antenne. De ce lundi, c'est parti.
La Libre Antenne, Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
C'est notre dernière semaine de Libre Antenne passée ensemble avant les fêtes, chers amis, puisque après, vous retrouverez durant ces quelques 15 jours de vacances, Roland Pérez qui tiendra place pour votre Libre Antenne. Et je sais que vous passez d'excellents moments avec Roland, puis nous nous retrouverons à la rentrée. Mais en attendant, nous sommes toute la semaine ensemble et nous allons essayer de passer ces minutes ensemble de la meilleure manière qu'il soit. Le conseil Toltec de la semaine: je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, où ce sera même impossible. Et c'est bien ainsi. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche, quand je sens que je peux, quand je sens que je suis en conscience vraiment avec mon présent, que je sens que je suis bien là, ici, les pieds ancrés. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer l'humeur qui va avec mon humeur. À méditer, chers amis, à méditer. Voilà, il est à 22h49 et nous accueillons pour commencer cette émission Georgia. Bonsoir Georgia.
Bonsoir.
Je ne vous demande pas l'âge que vous avez, je crois.
Tout à fait. Hein? Merci.
Voilà. Alors, vous m'appelez par contre de quelle région?
Bordeaux.
Bordeaux. De quoi voulez-vous me parler, Georgia ? Dites-moi tout.
D'un homme.
Mmh. D'accord. Eh bien, je vous écoute. D'un homme. Quel homme ?
Alors, hein, c'est l'homme que j'aime.
Oui.
Et donc, ben, on est dans une impasse et c'est un peu difficile à vivre, en fait.
Vous vous connaissez depuis combien de temps, tous les deux ?
Notre histoire dure depuis 7 ans.
D'accord. Vous vous êtes rencontrés. Vous voulez me raconter un petit peu comment et dans quel cadre vous vous êtes rencontrés ?
Alors, en fait, donc j'étais dans un endroit où il y avait tout un tas de personnes. Et lui, il était isolé à part. Et en fait, ben, moi, c'est ma nature. Quand je vois quelqu'un qui est seul, je vais discuter avec cette personne.
Mmh.
Et en discutant avec lui, ben, je me suis rendu compte qu'il n'allait pas bien. Donc, en fait, de fil en aiguille, eh ben, je lui ai proposé qu'on garde contact. Et en fait, c'est devenu accaparant, entre guillemets, parce qu'en fait, moi, je ne voyais plus mes amis, je ne voyais plus que lui. Et ça, ça a duré 1 an.
Oui.
En fait, pendant 1 an, ben, je l'ai écouté, on a discuté. Puis lui, il allait très très mal au début. Puis de fil en aiguille, il allait de mieux en mieux. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Donc petit à petit, finalement, cette relation s'est nouée.
Oui.
Et puis finalement, cet homme s'est aperçu que plus ça allait, plus cette situation lui faisait du bien.
Ah, dès le départ, je pense, en
fait. Dès le départ,
ouais.
D'accord.
Ouais, dès le départ, ouais. C'est-à-dire que lui-même, il m'avait dit, je t'avais déjà repéré avant, c'est-à-dire que moi, non. Mais a priori, alors j'ai même pas souvenir de l'habit qu'il m'a décrit, parce qu'effectivement, j'ai bien cet habit-là. J'avais pas souvenir de l'avoir porté, voilà, mais lui, il m'a dit, je t'avais déjà vu avant, en fait. Et quand lui, la première fois, il m'a vu, il a tout de suite su, en fait. Voilà.
Lui, il a tout de suite su, d'accord.
Ouais.
Vous vous êtes rencontré dans quel type de cadre, en fait, boulot ou plutôt un cadre de, je ne sais pas moi, plus léger
Plus léger, ouais.
Plus léger. Léger. D'accord.
Ouais.
Donc pas dans le cadre du travail, si je comprends
non.
bien.
D'accord. Non. Et du coup,
okay.
Ouais, pardon.
Donc cette situation commence. Elle commence de quelle manière ? Vous vivez chacun au début l'un chez l'autre ? Vous vous voyez de temps en temps ?
Non, alors on n'a jamais vécu ensemble.
D'accord.
À l'heure actuelle, lui, il a eu des histoires avec d'autres femmes. Et,
pendant ces 7 ans ? Pendant ces 7 ans ou avant
non,
ces 7
avant,
ans ?
D'accord. Avant. Et où, du coup, bah, il ne rentre pas dans les détails. Moi, j'essaye de ne pas rentrer dans les détails de mes anciennes histoires, parce qu'après tout, ce que nous ont fait les autres, mais, lui, il est pour rien de ce que les hommes m'ont fait. Moi, j'y suis pour rien de ce que les femmes lui ont fait, autant en bonheur qu'en malheur. Quoi. Donc, lui comme moi, on évite de trop raconter notre passé. Mais... de ce que j'ai compris, il a vécu des histoires un peu douloureuses où il a porté sa confiance sur des femmes et qu'il s'est senti trahi et que du coup, ça a créé des failles en lui, en fait. Voilà.
Est-ce que vous entendez par là que cela a créé chez lui une sorte de méfiance vis-à-vis des femmes ?
Alors oui et non, parce qu'en fait, lui, il me connaît... notre première rencontre, elle date d'il y a très 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 longtemps.
Mmh.
Et donc, au cours de cette année où il n'a pas exigé, mais ça s'est fait naturellement, en fait, parce qu'il avait ce besoin que je lui donne mon attention et mon temps pour qu'il aille mieux. Et en fait, au fur et à mesure qu'il allait mieux, je lui disais, bah, tu sais, ce serait bien que tu vois d'autres personnes, ce serait bien que tu vois d'autres amis, ce serait bien, etc. Mais lui, il se sentait en confiance qu'avec moi. Donc, du coup, pendant une année, on a une relation amicale exclusive, en fait. C'est-à-dire que moi, qui vois énormément de gens et qui suis très sociable, durant cette année-là, je n'ai vu que lui. Et comme on a passé une année entière amicale ensemble, il me connaît parfaitement.
Mmh.
Et moi, je le connais parfaitement, en fait. Du coup, je pense qu'il a confiance en moi. Mais en même temps, il y a des fois où, par exemple, c'était il y a 2 ans, quelqu'un en qui il avait confiance lui a dit que j'étais alcoolique. Et pendant plusieurs mois, il m'a entre guillemets posé des questions quotidiennes. Est-ce que tu bois ? Je dis, non mais tu vois bien que j'achète pas d'alcool. Tu vois bien, tu m'as jamais vu boire d'alcool. Donc à quel moment je serai alcoolique, quoi. Donc, mais pendant plusieurs mois, il m'a posé la question est-ce que t'es alcoolique ? Est-ce que t'es alcoolique ? Est-ce que t'es alcoolique ?
C'est incroyable, ça. Ouais.
Ouais. Non. Alors là, pour le coup, j'ai fait un jeu de mots, mais c'était saoulant. Parce que je sais qu'il a confiance en moi, parce que ben il me connaît, parce que durant cette année entière de notre rencontre, il a appris à me faire confiance. Mais malgré tout, entre temps, il a connu d'autres femmes qui l'ont entre guillemets trahi, et qui fait que ça a créé des fêlures en lui, qui fait que je pense pas que ce soit en moi qu'il n'ait pas confiance, c'est en lui qu'il a pas confiance. Et comme il a pas confiance en lui, du coup, il a une attitude envers moi qui du coup, pour moi, c'est difficile à vivre, quoi.
Alors, c'est un peu compliqué, en fait. Il est un peu compliqué, cet homme-là, un peu, non ? Il est un peu... comment ? Il a du mal à faire confiance, quand même, je sens.
Oui et non, parce que je pense qu'il a confiance en moi, vraiment, sincèrement.
Oui, enfin, il vous a quand même soupçonné d'être alcoolique. Donc, vous me dites qu'il a confiance en vous et en même temps qu'il vous connaît très bien et alors que j'entends qu'il n'y a aucune incertitude dans votre voix concernant justement l'alcoolisme ou une possible addiction que vous êtes sûr de vous. Vous savez, parfois il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont addicts. Vous, j'entends parfaitement que vous n'avez aucun problème avec l'alcool. Ça ne l'a pas empêché de vous soupçonner de ça, en fait.
Alors, je sais pas. Derrière, je pense que la psychologie humaine, elle est très complexe. C'est pas que lui. C'est-à-dire que, scientifiquement, c'était très simple pour lui de vérifier. Il prenait mes relevés de compte, il regardait mon appartement. Enfin, je veux dire, il y avait 40 milliards de façons de vérifier que c'était pas vrai ce que lui disait cette femme. Mais, laquelle, je ne sais pas, mais il y a une explication pourquoi à ce moment-là, lui, il a eu envie de croire cette femme-là. C'est une femme qui, a priori, n'a pas beaucoup d'importance dans sa vie, en fait. Mais lui, à ce moment-là, il a eu envie de croire que j'étais alcoolique, parce qu'elle, elle lui racontait. Mais derrière, il y a forcément un enclencheur, quelque chose qui fait que il avait besoin de douter de moi. Et du coup, c'était le prétexte pour douter de moi, en fait. Je ne sais pas si vous voyez mon raisonnement.
Oui, je vois. D'accord. Donc, en gros, oui, je vois. En gros, cet homme, il est un peu secret, non ? Il est un peu...
Oui.
Il est,
C'est-à-dire que la première année où on s'est rencontrés, moi je parle énormément, mais comme il était mal, je l'ai écouté. Et en fait, durant toute cette année-là, c'est lui qui a énormément parlé, en fait. Donc, durant cette année-là, il m'a donné des détails très, très, très pointus sur lui, sur toute son intimité, sur ce qu'il aimait, sur énormément de sujets. Et là, récemment, en fait, c'est complexe, la communication entre nous, où moi, j'en arrive à essayer de deviner les choses, ce qui n'est pas très sain, parce que du coup, je suis à côté de la plaque, forcément, en fait.
Vous êtes à côté de la plaque, c'est-à-dire, exactement, dites-moi ce que vous entendez par là.
Par exemple, votre collègue que j'ai eu au téléphone avant qu'on échange aujourd'hui me demandait pour le type de logement. Et du coup, je me suis rendu compte en échangeant avec elle que je ne savais même pas dans quel type de logement lui, il aimerait vivre. Quels étaient ses besoins, en fait. Est-ce qu'il aurait un besoin de ville ? Moi, je crois que c'est plutôt ça, mais j'en sais rien. Ou est-ce qu'il aurait un besoin plutôt de campagne ? En fait, il y a des sujets pointus comme ça où j'ignore complètement les choses, en fait.
D'accord. Vous avez évoqué avec lui donc la possibilité de vivre ensemble ?
Alors, je pense qu'il a été assez clair, c'est-à-dire qu'il a été ambigu, mais assez clair en même temps. C'est-à-dire que quand il est en couple et quand il est amoureux, il est assez exclusif, c'est-à-dire qu'il a envie de donner énormément de tendresse, donner énormément d'attention, et s'il le pouvait, de presque vivre 24 heures sur 24 avec la personne. Mais il a précisé, il est très clair sur le sujet, que son vétuché, qu'il a pris l'habitude de vivre seul et que il a besoin de cette solitude en fait. Et il a besoin d'avoir son domicile à lui.
D'accord. Alors, on va continuer à vous écouter, ma chère Georgia.